Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole publique sur Radio Tonique. Je suis ce soir en compagnie de Georges Martin, ancien secrétaire d'État adjoint aux Affaires étrangères sous Didier Burkhalter. Georges Martin, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous avez œuvré pendant 37 ans au département des Affaires étrangères de Berne. Depuis quelques mois, vous êtes mis à tweeter et à bloguer de manière assez régulière à propos notamment de la politique étrangère de Ignacio Cassis, le successeur de Didier Burkhalter. Vous n'avez pas un devoir de réserve qui vous aurait dû vous empêcher d'agir comme ça?
Oui, enfin, je me suis posé la question aussi. C'est vrai que c'est plutôt inhabituel. Lorsque ma retraite a débuté, je m'étais promis de faire toute autre chose, et surtout pas, et surtout plus de la politique étrangère. Maintenant, après 37 ans de bain, c'est difficile d'en sortir véritablement. Et puis il y a des choses qui, effectivement, m'ont alarmé, m'ont un petit peu énervé même, si bien que je me suis remotivé et que je suis reparti un petit peu comme un soldat pour défendre les grandes causes, les grands principes de la politique étrangère suisse de ces 30 dernières années. Et c'est ce qui a été un petit peu le facteur déclencheur, si vous voulez. Le droit de réserve, oui, mais je pense qu'il y a, à côté du droit de réserve, du devoir de réserve, il y a ce qu'on appelle dans le droit humanitaire le droit d'ingérence. Lorsque on estime que des grands principes sont sérieusement remis en cause, je pense que il faut s'engager. Au fond, je m'engage comme un citoyen, comme n'importe quel citoyen. Seulement, je connais un petit peu, puisque j'ai fait ça pendant plus de 30 ans. Donc, c'est avec mes connaissances, mes expériences, que le citoyen que je suis redevenu, s'engage.
Et donc, ça n'a pas posé de problème à votre ancien employeur? Vous n'avez jamais reçu un coup de téléphone de la Confédération qui vous a dit « Bon, monsieur Martin, vous êtes bien gentil, mais mettez-la un peu en veilleuse ».
Alors absolument pas, absolument pas. D'ailleurs, je pense que ce devoir de réserve, il y a quelque chose encore de plus important, c'est de ne pas dévoiler des secrets, évidemment, dont j'aurais eu connaissance pendant mon travail, ce que je ne fais pas. Je me contente, au fond, de donner mon avis. Et je pense que ce serait malvenu de la part de mon ancien employeur de me dire qu'ils ne partagent pas ses avis. Et que... Alors non, je n'ai pas reçu de téléphone.
Et puis, vous étiez engagé précédemment au Parti Socialiste. Vous avez donné une interview au Matin Dimanche dans laquelle vous annonciez fin mars que vous aviez quitté le Parti Socialiste. Au fond, pourquoi l'avoir quitté? Vous n'étiez plus d'accord avec ses valeurs?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, ça fait partie de mon ADN. Je suis un peu sous poilet. Je veux dire que quand quelque chose qui m'énerve particulièrement, c'était la réponse à votre première question d'ailleurs, je m'engage et je le fais savoir. Et ce qui m'a, en l'occurrence, particulièrement agacé, c'était ce que j'estimais être une violation crasse du fédéralisme. Vous vous souvenez, lors du projet des Jeux Olympiques en Valais, que je soutenais personnellement, mais enfin, ça n'a rien à voir avec ça, le Parti Socialiste Suisse a soutenu une motion de Mme Semadeni pour, au cas où les Valaisans seraient favorables majoritairement pour les Jeux Olympiques, de soumettre le vote sur le milliard de la Confédération à tous les citoyens suisses. Ça ne s'est jamais fait, c'est contraire aux règles du fédéralisme et ça m'a particulièrement agacé. J'ai été en contact avec certains responsables du Parti Socialiste qui me disaient « Écoutez, ben, circulez à Hanauer, nous ne sommes pas en faveur de ce projet et puis pourquoi pas ?» Ça m'a particulièrement énervé, donc j'ai claqué la porte. Mais les valeurs sont les mêmes, je continue à voter comme si j'étais membre. Peut-être que je donne quelques centaines de francs en moins qu'autrefois.
Bon, je vais vous poser une question un peu taquine, mais est-ce que vraiment vous étiez étonné de voir que le Parti Socialiste ne respectait pas à la lettre le fédéralisme? Parce que quelque part, ce n'est pas dans son habitude. Il a souvent tendance à proposer une centralisation du pouvoir, donc ce n'était pas si étonnant que ça.
Oui, mais je pense que ce qui fait la force de la Suisse, c'est quand même le respect de certaines règles. Le fédéralisme, c'est quand même la base. Alors après, on peut me dire avec raison, est-ce que le sujet en valait la peine? Certainement pas. Maintenant, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts. Mais je pense que non, le Parti Socialiste a été assez décevant, en l'occurrence. Vous savez, je me suis rendu compte à cette occasion, en échangeant beaucoup avec des responsables, que finalement, un projet de Jeux Olympiques, ça n'est pas réellement socialiste. Ce n'est pas supporté par les pontes, si on peut dire comme ça, du Parti Socialiste. Pourquoi? Parce que c'est un sport qui coûte très cher. C'est un sport qui n'est pas un sport de masse, etc. Tout ça est vrai, tout ça est vrai. Mais je pense que on peut pas oublier l'aspect spectacle qui plaît. Et en l'occurrence, en plus, pour le Valais, je pense que c'était 2 milliards de francs, 1 milliard de la Confédération, 1 milliard du CO. Et ça aurait été assez utile de les recevoir.
Et au niveau donc, du Parti Socialiste, sur l'accord cadre, est-ce que donc, l'accord cadre européen, les relations entre la Suisse et l'Union européenne, le Parti Socialiste, lui, est plutôt contre l'accord cadre. Il semble dire que le problème, ce sont les mesures d'accompagnement pour protéger les salariés. Est-ce que ça, c'est une ligne que vous comprenez de la part du Parti Socialiste aujourd'hui ?
Alors, je pense que le Parti Socialiste, est, avec beaucoup d'autres, heureusement, est pour l'accord cadre. Je crois qu'il n'a jamais nié que c'était nécessaire pour la poursuite de la voie bilatérale. Maintenant que le Parti Socialiste défende son fonds de commerce, son électorat, les ouvriers, en mettant en avant les lignes rouges, la défense des salaires, etc., la défense de la place salariale suisse par rapport à celle de nos amis européens qui est inférieure, je pense que c'est légitime. Non seulement c'est légitime, mais il faut le faire. On ne peut pas adhérer à un accord cadre qui rabaisserait, si vous voulez, les conditions que les ouvriers, les travailleurs en Suisse ont acquises. Ça, ce n'est pas possible.
Oui, j'ai oublié de préciser une petite chose, c'est que M. Martin nous a reçus chez lui à Berne. Et je dis ça parce qu'en fait, je rigole parce que son chien vient de rentrer dans la salle. Donc voilà, c'est juste pour que les auditeurs soient au courant. Pour continuer la discussion, l'accord cadre actuellement a l'air plutôt dans l'impasse. Il y a le PLR qui le soutient visiblement corps et âme. On a vu un sondage des entreprises d'économie suisse qui était largement favorable à 2/3 en tout cas des sondés pour l'accord cadre. Est-ce que là, il n'y a pas un problème aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'est pas vers une impasse sur cet accord cadre avec l'Union européenne ?
Oui, je crois incontestablement. On a vu à côté de ce sondage que le sondage concernant l'ensemble des Suisses montre un résultat négatif. Je pense qu'en l'état, la majorité des Suisses n'en veulent pas en ce moment. Et puis s'ajoute à cela aussi la position pour le moins frileuse du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral n'a même pas donné son avis sur cet accord cadre, s'il est plutôt pour, s'il est plutôt contre. M. Cassis l'a fait, mais il est le seul. Et pour l'instant, je pense que notre gouvernement, au fond, ne se sent pas la force. D'ailleurs, il est très, très désuni aussi. Il n'y a pas d'union au sein du Conseil fédéral. Et c'est dans ces circonstances, il est très compliqué d'avancer. Je pense personnellement que le rôle de leader, le rôle d'un gouvernement dans un pays, c'est tout de même de montrer la voie. Alors on attend toujours. On a été très surpris à la fin de l'année dernière de constater que le Conseil fédéral préférait au fond initier une procédure de consultation qui n'est pas réellement prévue par nos textes de loi, nos textes constitutionnels. Au fond, c'était purement pour gagner du temps. Et maintenant, on est arrivé au moment où il faut répondre à l'Union européenne. L'Union européenne, peut-être on va en reparler, est dans une situation un peu particulière maintenant, après les élections. On se demande bien comment tout ça va évoluer.
Oui, justement, en tout cas au niveau du gouvernement suisse, au niveau du Conseil fédéral, on a eu il y a quelques jours aussi un sondage des Suisses qui, à 41% à peu près, rejette l'accord cadre. Et là, le conseiller fédéral Guy Parmelin, en charge de l'économie, s'est déclaré en faveur d'une renégociation. Il y a vraiment le sentiment que tous les conseillers fédéraux, finalement, tirent à une corde différente sur ce dossier. Ignacio Cassis semble plutôt pour, mais Ignacio Cassis aussi, pendant sa campagne pour le Conseil fédéral, annonçait un reset des relations avec l'Union européenne et la Suisse. Ça ne s'est pas fait. En tout cas, du moins, on n'a pas l'impression que ça ait eu lieu. Finalement, est-ce qu'on peut, aujourd'hui en Suisse, trouver une solution à nos relations avec l'Union européenne dans le contexte actuel ? On a l'impression que ce n'est pas possible.
Oui, alors vous avez raison de le souligner. Le Conseil fédéral, comme on le disait, est très divisé. Et c'est pour le moins surprenant qu'un membre du gouvernement, non seulement le gouvernement n'a pas donné son avis, il n'a pas dit qu'il était pour, mais qu'un membre du gouvernement, avant même que le collège se décide, dit que lui, il est contre et qu'il faut renégocier, c'est très, très surprenant et ça doit interroger. C'est pas tout à fait normal. Maintenant, c'est évident que pourquoi les difficultés ? C'est parce qu'on s'approche du cœur, du réacteur. Jusqu'à maintenant, la voie bilatérale, lorsqu'elle touche des secteurs déterminés, ça va, c'est technique, etc. Maintenant, on s'approche au fond de la décision, de la codécision. On s'approche Finalement, cette dynamisation de nos rapports avec l'Europe, on passerait d'un siècle à l'autre, dans ce sens que jusqu'à maintenant, on a négocié, signé des accords, et puis, en définitive, ces accords étaient fixés, étaient coulés dans le marbre, et ça bougeait plus. Tandis que maintenant, l'Union européenne veut, et on le sait très bien, veut dynamiser nos relations. C'est-à-dire que le droit évoluerait en dehors, on n'aurait plus à renégocier, le droit évoluerait. Alors les Suisses ne sont pas idiots, ils se rendent bien compte qu'on passe, comme je disais, d'un siècle à l'autre, et qu'il faut se poser d'autres questions. C'est pour ça qu'il y a les hésitations, c'est pour ça qu'il y a les divisions, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Et le jour où on aura passé ce Rubicon-là, alors nos rapports avec l'Europe auront changé de nature. Et ça va se faire une fois, j'en suis absolument convaincu. Mais c'est juste douloureux au moment où ça passe.
Oui, justement, comme vous dites, c'est douloureux parce que quelque part, en fait, la question qui est posée dans le cadre de cet accord, c'est finalement, est-ce que la Suisse va continuer à avoir sa pleine souveraineté ou est-ce qu'elle va abandonner une part de sa souveraineté en acceptant d'avoir une partie du droit qui est adaptée automatiquement avec l'Union européenne. Et sur cette question, on a l'impression ni les partis, ni le Conseil fédéral, ni personne en fait en Suisse n'est prêt à réellement poser cette question droit dans les yeux au peuple et préfère utiliser des subterfuges pour éviter finalement de dire la vérité. Finalement, la vérité, c'est que l'évolution des relations avec l'Union européenne, ça va impliquer cette reprise du droit automatique, du moins en tout cas une partie, et donc il y a une partie de la souveraineté de la Suisse qui va être touchée. Est-ce que là, il y a quelque chose à faire pour changer de stratégie finalement, vous pensez ?
Oui, je pense que ce à quoi vous faites allusion, au fond, c'est maintenant le cœur de nos institutions. Nous avons des institutions qui fonctionnent magnifiquement bien. D'ailleurs, elles intéressent de plus en plus nos voisins, qui ne s'étaient pas intéressés jusqu'à maintenant. Mais en même temps, c'est assez compliqué dans ce sens qu'il nous manque l'étage exécutif. On a une magnifique fusée et les pères fondateurs n'ont pas voulu qu'il y ait un étage exécutif fort. Et c'est ça aussi qui fait notre force. Si bien qu'en définitive, c'est au peuple qu'il revient de se faire une opinion. Maintenant, lorsqu'un dossier est un dossier de politique étrangère, c'est très compliqué au peuple réellement de se l'approprier. C'est plus facile de voter pour la construction d'une autoroute, d'une école, même pour l'achat d'avions de combat. Maintenant, c'est plus compliqué lorsqu'on parle, comme je disais, d'un changement de nature dans nos relations avec l'Union européenne. C'est vrai que, et c'est aussi le cœur du cœur, on doit passer d'un concept de souveraineté traditionnelle à la souveraineté que je dirais moderne, c'est-à-dire qu'on donne une partie de notre souveraineté traditionnelle à un ensemble plus grand que nous pour devenir plus performant et plus souverain aussi en définitive. On participerait de cette souveraineté collective. Et c'est ça qui est difficile de comprendre. C'est ça que le peuple suisse... Et je pense que le peuple suisse n'est pas idiot. Il hésite pourquoi ? Il hésite parce qu'il se rend bien compte que nous sommes arrivés dans l'histoire de nos rapports avec l'Europe c'est un rond-point, si on veut. On va prendre une autre direction, mais il veut peut-être se donner un peu plus de temps pour la réflexion. Maintenant, on a des élites politiques, que ce soit les partis, que ce soit le gouvernement, qui sont un petit peu perdus par rapport à ça, évidemment. Parce qu'on n'a pas l'habitude, dans notre pays d'avoir des leaders qui montent la voix. Au fond, ils se laissent pousser. Et puis, c'est plus facile dans un sens. Mais c'est aussi une des limites peut-être du système. Lorsqu'on doit franchir un fleuve, il faut avoir des gens qui nous montrent comment le faire. Et il faudrait peut-être à la limite qu'on puisse prendre, nous, le peuple, sous le bras, nous faire franchir l'obstacle. Et puis qu'ensuite, on ne verrait que des bonnes raisons de l'avoir franchi. Mais c'est compliqué. C'est difficile. Il faut trouver une majorité. On n'a pas le choix. Il faut faire une majorité. Alors pour ça, et pour répondre à votre question très clairement, je pense qu'on ne pourra pas faire l'impasse d'un vrai débat sur nos relations avec l'Union européenne. Jusqu'à maintenant, ça a bien marché d'arriver avec une sorte de tactique du salami, avec chaque petit vote technique, etc. Ce qui permettait au fond de dire tous les votes sur l'Europe, ou presque, on les a gagnés, c'est très bien, mais on n'a jamais parlé du fond du problème. Précisément de cette dynamisation, précisément de ce système qui nous amènerait à reprendre quasi automatiquement le droit européen. Au fond, une situation qui nous ferait encore plus membres de facto de l'Union européenne, sans être réellement à l'intérieur.
Mais justement, sur cette question de l'appartenance à l'Union européenne sans y appartenir vraiment, finalement, on remarque aussi quand même qu'il y a une tendance dans l'Union européenne de quelques députés européens, de cas de plus en plus nombreux, surtout allemands, qui disent « mais finalement, la Suisse, ça fait des décennies qu'elle dispose d'un modèle totalement unique. Elle a une Europe à la carte et nous, on n'en veut plus. On ne veut plus que la Suisse profite, mais ne donne rien en échange. » Et on l'a encore vu tout récemment avec la votation sur l'application de la directive Schengen sur les armes en Suisse. Quand même, la Suisse, elle a réussi à jouer son rôle parce qu'elle a obtenu des exceptions à tous les niveaux pour les tireurs, pour les chasseurs et pour les militaires qui pouvaient conserver leurs armes de prescription chez eux. C'est quand même assez unique en son genre, la Suisse, sa capacité, ce petit pays, cette capacité à négocier avec les Européens, à faire finalement un peu un rapport de force quand même qui ne leur est pas nécessairement favorable à la base et obtenir autant d'aménagements. Comment vous expliquez que finalement la Suisse, elle arrive à mettre autant de poids dans sa poche et puis quelque part, elle obtient autant de choses de la part de ses partenaires.
Alors moi, je pense que la Suisse, on a été traité par l'Union européenne un petit peu comme un enfant gâté. À l'époque des bilatérales 2, j'étais en poste à Paris et on se rendait bien compte que les États membres, notamment la France en l'occurrence, étaient tout à fait disposés à nous accorder beaucoup plus qu'à n'importe quel État tiers. Pourquoi ? Parce qu'on pensait qu'en faisant ainsi, on allait nous aider à franchir l'obstacle de l'adhésion. Voilà. On voulait approcher la Suisse de l'Europe pour lui permettre d'y adhérer, au fond, plus facilement. Et voilà, on se rend compte aujourd'hui que ça n'est pas le cas, qu'en définitive, en nous donnant pratiquement, l'essentiel ou beaucoup des avantages de l'adhésion, on tolérait, on nous laissait toujours à l'extérieur. Donc c'est de là vient le beurre, l'argent du beurre, etc. On a été vus de plus en plus comme des profiteurs. Alors évidemment qu'on peut répondre que économiquement parlant, on a une grande importance pour l'Europe, les frontaliers, mais aussi tous les échanges, etc. C'est vrai. Mais l'Europe est beaucoup plus importante pour nous économiquement. Il faut pas se voiler la face. Je veux dire, ne serait-ce que le Bade-Wurtemberg, c'est je crois presque aussi important que les États-Unis. Donc voilà. Non, je pense qu'on est arrivé à la croisée des chemins aujourd'hui. Et effectivement, l'Europe nous dit au fond une chose très claire. Ils nous disent, nous ne sommes plus disposés à continuer à vous accorder les mêmes choses que nous avons données jusqu'ici. Donc il faut dynamiser, il faut trouver une solution qui dynamise ces relations, une solution qui permette à notre accord dans les domaines dans lesquels on se serait trouvé d'évoluer ensuite de manière au rythme du droit européen, du développement du droit européen. Et vous avez tout à fait raison. Je pense que on se rend très bien compte à Berne qu'à Bruxelles ou à Strasbourg ou dans les capitales, on est plus prêt à nous donner ce qu'on nous a accordé jusqu'ici. C'est pour ça qu'il faut franchir ce Rubicon.
Mais comme vous dites, finalement, on doit franchir une étape et on a le sentiment quand même qu'une grande partie de la classe politique vend l'idée que la continuation des négociations est possible et que quelque part, on va pouvoir obtenir encore plus de l'Union européenne. Est-ce que là, c'est pas un peu irresponsable de continuer de la part des élites politiques à nourrir le mythe comme quoi la Suisse est capable de faire plier n'importe quelle puissance par sa capacité de négociation? Est-ce que là, on ne doit pas aussi faire le deuil d'une certaine... On est arrivé aux limites de notre capacité à obtenir des énormes avantages par rapport à une époque où on pouvait justement profiter un peu plus de l'Union européenne?
Oui, c'est comme je disais. Je pense qu'il faut cesser de croire qu'on peut obtenir encore plus. Il faut simplement aussi accepter de... Vous savez, les mots ont un sens. Lorsqu'à Bruxelles, on nous dit que les négociations sont terminées, sont closes, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'elles sont closes. Alors, on peut dire, oui, mais on ne veut pas négocier, on veut des éclaircissements, on veut, etc. Non, il faut bien se dire, lorsque M. Parmelin parle de renégocier, lorsque M. Maurer, président de la Confédération aussi, a dit des choses un petit peu qui vont dans la même direction, dans leur esprit, c'est réellement renégocier. Je crois même que M. Parmelin, ministre de l'économie, c'est tout de même pas bénin, anodin, parle de remettre l'ouvrage sur le métier, de repartir à zéro. Alors, c'est plus des demandes d'éclaircissement, c'est réellement une renégociation. Et je pense que le temps est définitivement terminé pour ça. Mais ce n'est pas nouveau. Au fond, les relations entre la Suisse et l'Union européenne, c'est un problème helvético-suisse. depuis très très longtemps. C'est un problème à Berne, c'est pas du tout un problème à Bruxelles, c'est pas un problème même entre Berne et Bruxelles, c'est un problème suisse. Et c'est nous, c'est à nous qu'il revient de savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que moi, j'appelle de mes voeux une vraie votation, comme on dit, sur nos relations avec l'Union européenne. Clarifier qu'il y a une campagne électorale, qu'on ait l'occasion de parler de tout, et vraiment de tout. Et on verra bien, les Suisses disent non. Vous savez, la classe politique a souvent extrêmement peur d'en arriver là. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur d'un non. Mais on ne peut pas toujours repousser la vraie question simplement parce qu'on a peur que la réponse est négative. À la limite, je veux dire, les Suisses ont toujours bien compris quels sont leurs intérêts bien compris. Finalement, lorsqu'elle dit non, et puis que finalement ça n'était pas dans son intérêt, ben, le peuple suisse peut se corriger. Vous savez, tout ça, c'est une question financière et économique. Donc, tant que les Suisses sont convaincus qu'en restant en dehors de l'Union européenne, en ayant nos accords et les accords que nous avons en ce moment, on travaille dans le sens de nos intérêts économiques, ben, ils vont pas franchir le pas. Par contre, si on arrive à faire comprendre, et s'ils comprennent par eux-mêmes, que nos intérêts économiques aussi, au-delà des intérêts politiques, devraient nous amener à accepter des types d'accords comme l'accord cadre, ben je pense que les Suisses majoritairement seront prêts à le faire.
Moi, quand je vous écoute, j'ai plutôt le sentiment qu'on va vers vers un clash, vers une glaciation obligatoire de nos relations avec l'Union européenne, et qu'il va falloir peut-être passer de nouveau par une étape où nos relations avec l'Union européenne seront au point mort, et où on va finalement retrouver cette période qu'on a connue un peu après le vote sur l'espace économique européen en 1992, cette période où, quelque part, on va connaître en fait les conséquences d'une absence de partenariat avec l'Union européenne sur notre économie, sur nos relations en général avec le monde. Est-ce que là, ce n'est pas la meilleure solution finalement pour que le peuple, les gens comprennent par l'exemple que ce n'est pas la bonne solution de rester en dehors de cet ensemble-là ?
Absolument. D'ailleurs, en 92, lors de l'espace économique européen, effectivement, il y a eu deux années, peut-être trois, d'atermoiement, c'est le plus très bien où elle est, etc. Mais ensuite, les choses... On était justement dans la période où l'Union européenne nous était extrêmement favorable. Hein? Ils ne nous ont pas poussé sur la tête pour l'enfoncer dans l'eau encore plus. Non, au contraire, ils ont accepté d'entrer en négociation pour les accords bilatérales qui ont suivi. Je me souviens qu'avant les votations, avant la votation sur l'espace économique, un rapport de l'Université de Saint-Gall prévoyait 2 points de perte en termes de croissance. Enfin, c'était voilà. Et puis finalement, grâce aux accords bilatéraux 2, on a vu que économiquement, en tout cas pour la Suisse, les choses se sont bien passés. Maintenant, nous ne sommes plus dans cette période. Nous sommes effectivement dans une période où ça n'est plus possible, on ne peut pas attendre quelque chose de plus favorable de la part de l'Europe. Pour l'instant, il n'y a pas de majorité en Suisse pour franchir ce pas-là. Alors peut-être avez-vous raison, peut-être qu'il faudra... Vous savez, les pays européens qui ont adhéré à l'Union européenne l'ont fait, je ne parle pas des fondateurs après la guerre, c'était évident pour éviter que la Deuxième Guerre mondiale, enfin une chose pareille, se reproduise en Europe. Mais ensuite, à chaque élargissement, chaque pays, chaque nouveau pays, chaque nouveau membre avait des intérêts économiques, politiques ou même les deux à adhérer. Aucun pays n'a adhéré à l'Union européenne sans avoir de forts intérêts politiques, économique et encore une fois aussi peut-être les deux. Donc il se trouve que la Suisse, l'impression, la perception des Suisses aujourd'hui par rapport aussi aux problèmes de l'Union européenne, c'est que politiquement ils n'ont rien à gagner, ils ont intérêt à rester à l'extérieur et économiquement il faut bien reconnaître que tout ça va relativement bien pour notre pays, pour l'instant aussi. Alors après la question que vous posez, si nous n'acceptons pas l'accord cadre, est-ce qu'il y aura des répercussions économiques ? Mais peut-être faudra-t-il en passer par là, c'est pas exclu, il faut que les Suisses se rendent compte, parce que finalement la majorité des Suisses je pense ne croit pas aujourd'hui, hein, qui aurait des conséquences économiques. Ils pensent qu'au fond, et ils ont raison, dans l'instant, mais seulement on peut s'attendre à ce que nos relations avec l'Union européenne ne soient plus entièrement et suffisamment couvertes par les accords que nous avons avec l'Union. Et il n'y aura pas de nouvel accord. Donc il faudra bien qu'à ce moment-là, une majorité dans ce pays comprenne et se décide pour effectivement avoir des relations dynamisées, dynamiques avec l'Union européenne. Mais peut-être qu'il faut passer par un moment peut-être un peu plus compliqué, plus pénible.
Et vous qui avez travaillé presque jusqu'à la fin, à quelques mois près, avec Didier Burkhalter sur le dossier européen, est-ce que vous avez l'impression que Ignacio Cassis, son successeur, à continuer à l'héritage de Didier Pourcalter sur la question européenne, ou est-ce qu'il a quand même un peu changé de cap et a modifié un peu la position de la Suisse par rapport à cette négociation ?
Alors, moi, je n'étais pas directement concerné par le dossier européen avec M. Pourcalter. Je pense que, pour répondre à votre question, je pense que le dossier européen a été magnifiquement porté par le secrétaire d'État chargé des négociations avec Bruxelles, M. Roberto Balzaretti. Les choses n'ont pas réellement changé. Qu'est-ce qu'on a reproché à M. Pourcalter ? On a reproché un certain immobilisme à la fin. On lui a reproché aussi que finalement, il n'a pas su initier un débat public. M. Pourcalter a toujours pensé qu'il fallait laisser... Au fond, il faut donner du temps au temps. Il y a un moment pour tout. Et qu'au moment où il était aux affaires, c'était le moment de la négociation. C'était aussi le moment d'informer. C'est ce qu'il a fait régulièrement les commissions. La classe politique au niveau du Parlement, etc., mais que c'était le temps n'était pas encore venu pour un large débat national. On lui a reproché ça, on a dit qu'il faudrait en parler. M. Cassis a au contraire dit que lui était pour un reset. Alors, ce reset, vous savez, ce reset, ça a été la nomination de M. Balzaretti, qui était une très bonne décision. Et puis pour le reste, je pense que les choses ont continué sur les mêmes bases que celles qui étaient au fond sous M. Pourcalter. Ça n'a pas... Ce qu'on a maintenant, c'est le résultat de tout ce qu'a fait M. Pourcalter.
Rien n'a changé, ou presque, mais sur certaines questions, quand même, la nomination d'Ignacio Cassis au Conseil fédéral a changé des choses, notamment sur la question, sur ses tweets ou ses déclarations, en tout cas, sur la coopération et l'aide aux Palestiniens. Ça, c'est quelque chose qui vous avait beaucoup, beaucoup agacé. Vous lui en voulez toujours ?
Oh, je ne lui en veux pas personnellement, je ne le connais pas. Et on dit, et tout indique, que c'est une personne, une personnalité... Avec laquelle il est très facile de commercer. Il est comme homme, voilà, c'est pas la personne, moi je le connais pas. Mais c'est sa politique, effectivement. Je pense que lorsqu'on est ministre des Affaires étrangères, c'est différent qu'être ministre des Transports, de la Communication ou je ne sais quoi, de la Santé. C'est, au fond, porter la Suisse à l'étranger. Et la politique étrangère d'un pays est multipartisane par définition. On ne peut pas imaginer que la politique étrangère change radicalement en fonction du titulaire du poste de chef du DFAE. Alors c'est vrai que lorsque j'ai commencé débuté ma retraite, je m'étais dit que j'allais faire tout autre chose que la politique étrangère, peut-être suivre comme un citoyen lambda, bien sûr. Mais il y a eu des choses, des déclarations qui m'ont particulièrement inquiété. Notamment, vous faites allusion aux déclarations de M. Cassis sur l'UNRWA. Je pense qu'il a rétropédalé depuis, mais enfin, le mal a été fait. Je veux dire, comment peut-on dire, lorsqu'on connaît la région, lorsqu'on connaît l'histoire des Palestiniens, des différentes guerres, etc., comment peut-on dire que l'UNRWA, qui est l'Organisation des Nations Unies qui aide les Palestiniens, qui aide les réfugiés palestiniens, comment peut-on dire que cette organisation fait partie du problème ? Enfin, c'est assez monstrueux.
Georges Martin, merci. On va faire une petite courte pause musicale et nous revenons dans quelques instants pour continuer cette discussion. Rebonsoir à toutes et à tous, je suis toujours en compagnie de Georges Martin, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires étrangères sous Didier Pourcalter, ancien conseiller fédéral qui est parti en 2017, fin 2017. Nous discutions avec M. Martin de son successeur, Ignacio Cassis, et de ses déclarations ou de ses positions en tout cas politiques sur certains dossiers des affaires étrangères. Il y a un autre dossier sur lequel vous êtes assez, agacé, c'est la question du désarmement nucléaire, de la position de la Suisse sur toute la question nucléaire, finalement. Vous avez récemment, mi-mai, je crois, publié un blog sur lequel vous inquiétez des déclarations de la Suisse sur les traités de désarmement nucléaire, notamment. Là, il y a vraiment une inquiétude à avoir sur la position de la Suisse, vous trouvez ?
Oui, alors, c'est une inquiétude de principe. Il ne s'agit pas... bien sûr, il n'en va pas de l'arme nucléaire, oui ou non, etc., et de la sécurité de la planète dans un sens immédiat. Mais pourquoi tout ça est inquiétant ? La Suisse, il y a 10 ans, depuis 10 ans en tout cas, même plus, s'engage au niveau international sur le plan des idées, sur le plan du droit humanitaire notamment, contre l'arme nucléaire. Je rappelle aussi en passant que M. Obama, dans un fameux discours, avait aussi dit dit que le but de toute politique doit être la libération de la planète entière de l'arme nucléaire. Évidemment, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons très bien que c'est pas en une nuit qu'on parviendra à ce résultat. Mais enfin, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas se battre pour des idées. Alors on me dira des idées, mais les idées ont changé le monde. Il suffit d'une idée, d'une bonne idée, et parfois ça peut initier des révolutions. Alors, il y a une dizaine d'années, dans une conférence sur le TNP, le traité de non-prolifération nucléaire, qui se fait chaque année, Madame Calmiret, au nom de la Suisse, avait appelé de ses voeux la conclusion d'un traité pour l'interdiction de l'arme nucléaire, d'un traité des Nations Unies. À ce moment-là, on ne se faisait pas d'illusions, on pensait que ce traité ne verrait jamais le jour, en définitive. Eh bien, surprise, surprise, 10 ans plus tard, on l'a. La Suisse, en d'autres termes, a été un peu le parent, avec d'autres, de ce traité. Alors au moment où nous avons ce traité ouvert à signature et ratification, qu'est-ce que fait le père ou la mère, c'est égal, la Suisse en l'occurrence? Eh bien, on ne reconnaît pas l'enfant. On ne reconnaît pas l'enfant et on dit qu'on ne peut pas signer en l'état, etc. Ce qui a, entre parenthèses, provoqué un arrêt des signatures. On est à peu près au-dessus de 22 maintenant, il faut 50 ratifications et signatures pour que la Convention des Nations Unies entre en vigueur. On a provoqué un arrêt, pourquoi? Parce que les pays, au fond, disent mais la Suisse est un peu à l'origine de tout ça, a porté le projet, elle ne signe pas, donc il y a un truc, quelque chose qui ne joue pas. Voilà. Alors, c'est une affaire de principe. Je pense que si la Suisse est à la hauteur de sa réputation et du rôle qu'elle joue dans le monde, c'est précisément lorsqu'elle parle de droit humanitaire. Et là, en l'occurrence, c'est vrai, je pense qu'on n'a vraiment pas été à la hauteur et ça m'a profondément agacé.
On le sent en tout cas. Et toujours sur cette question, vous avez même écrit sur votre blog, quelque part, enfin vous liez en tout cas visiblement la postulation de la Suisse à un siège au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là, vous dites clairement, si c'est pour devenir le caniche des grandes puissances, la Suisse doit renoncer à ce siège. Est-ce que vous pensez que sa position sur le traité de non-prolifération des armes nucléaires est liée à cette postulation, cette candidature ?
Le traité, le texte des Nations Unies, la Convention pour l'interdiction des armes nucléaires, a été accepté par beaucoup plus que 100 pays, par l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc effectivement, il y a une large majorité au niveau planétaire qui soutient ce traité. Qui ne soutient pas ? C'est essentiellement les 5 grandes puissances nucléaires, membres aussi du Conseil de sécurité. Et effectivement, il y a eu, on peut imaginer, des pressions de leur part sur un pays comme la Suisse, parce que nous sommes, si nous refusons de signer cette convention, nécessairement, on devient un trophée de chasse important. C'est pas la même chose lorsque la Suisse dit non à un traité d'interdiction des armes nucléaires, ou si c'est le Zimbabwe. Pas photo. Donc, effectivement, on s'est mis un petit peu à la remorque des pays, des cinq puissances nucléaires. Et là, nous ne sommes pas dans notre rôle et nous ne jouons pas le rôle principal qui revient à la Suisse, c'est-à-dire d'être un petit peu le pays qui porte le fanion des valeurs, etc. Et c'était très bien accepté par les puissances nucléaires. Dans tous les gremiums internationaux où on a rappelé, on s'est engagé pour cet accord, etc., pour ce traité, on n'a jamais eu de problème avec les 5 puissances nucléaires. À partir du moment où on a vacillé et qu'on a décidé d'attendre et de ne pas signer, automatiquement, ces puissances se sont vues encouragées à exercer peut-être des pressions, peut-être sur nous. C'est pour ça que nous ne sommes plus... Lorsque nous parlons comme une puissance nucléaire, lorsque nous disons, parce qu'il faut aussi quand même s'étonner qu'une des raisons pour lesquelles on ne signait pas le traité en l'état, c'est parce que, en le faisant, on risquait d'agacer l'OTAN. Et ça signifierait qu'on n'aurait peut-être pas droit au parapluie nucléaire de l'OTAN. Et ça a été écrit noir sur blanc dans des textes fédéraux à Berne. Donc je veux dire, c'est la première fois qu'on voit une violation, si vous permettez, aussi crasse de la neutralité. On n'a jamais, alors on peut penser tout ce qu'on veut, mais on n'a jamais écrit qu'en temps de crise, nous serions très heureux de bénéficier du parapluie nucléaire de l'OTAN. C'est quelque chose d'assez énorme, et ça c'est nouveau. Et tout ça fait que Je pense qu'il... Et d'ailleurs, vous savez, le Parlement a très bien compris. C'est très rare en Suisse que sur un sujet de politique étrangère, le Parlement, les deux chambres du Parlement, s'expriment à l'égard du Conseil fédéral et leur dit « Écoutez, vous avez décidé ça, on n'est pas d'accord, on vous demande de signer et de ratifier ». Évidemment, ce n'est pas contraignant, parce que la politique étrangère, à ce niveau-là, c'est le Conseil fédéral qui l'a. Mais tout de même, c'est quand même le représentant qualifié du peuple qui demande au gouvernement de faire quelque chose, et le gouvernement ne fait toujours pas.
Mais la Suisse, finalement, ce n'est pas sur ce seul dossier où elle a plus ou moins reculé. Il y avait aussi un accord, l'accord de Marrakech, dit sur l'immigration, qui a fait beaucoup, beaucoup débat. Et c'est aussi un sujet sur lequel la Suisse a finalement fait un rétropédalage assez étonnant. Est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère de la politique étrangère de la Suisse ? Est-ce qu'on est dans une ère où la politique étrangère de la Suisse n'est plus celle qu'elle a été pendant des décennies, voire plus d'un siècle, celle de la neutralité, celle du respect finalement d'un arbitrage des grandes puissances du monde ? Est-ce que là on est dans quelque chose de nouveau et on doit s'en inquiéter ?
La solidarité aussi, j'ajouterais, la solidarité qui est très importante. Vous savez, un pays riche comme la Suisse, on est extrêmement riche. Cette richesse est acceptée pour autant que nous soyons solidaires. Il faut nous montrer solidaires. Et je pense que le pacte des migrations, c'est aussi un enfant suisse. On s'est encore plus engagé sur ce pacte-là que pour le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et notre ambassadeur à New York aussi, qui a été laissé d'ailleurs tout seul lorsqu'il a été attaqué, lorsqu'on a placardé son portrait à Zurich en l'accusant d'être l'ennemi public, l'ennemi du peuple, c'est incroyable. Et je ne pense pas que le DFAE l'a soutenu, au contraire. Je pense qu'on a dit que lorsqu'on exerce les fonctions qu'il exerce toujours, on doit avoir la carrure et le coffre pour supporter ça. Non, je pense qu'effectivement, sur ce pacte-là, on n'a pas été à la hauteur encore une fois. On aurait dû être à Marrakech, on aurait dû le signer, et j'espère qu'on va le faire une fois. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, moi je pense qu'on est dans une époque où c'est America first, America. Alors, si la Suisse pense qu'on peut dire Switzerland first, la Suisse en premier, et les autres circuler à rien avoir, on va au-devant de grands problèmes. Parce qu'on nous pardonnera pas de manquer de solidarité à l'égard des grandes causes dans le monde. C'est vrai aussi pour l'aide au développement. Alors, l'aide au développement, on peut être certain maintenant qu'elle se continuera plus ou moins comme la Suisse l'a toujours faite, mais ça n'est pas acquis non plus, parce que le discours a changé. On a un peu l'impression, finalement, que on se dit, après tant d'années où la politique étrangère était consensuelle, elle était au fond au centre, centre-droit, du centre-droit au centre-gauche, eh bien maintenant, c'est le moment pour la partie encore un peu plus à droite de faire entendre sa voix. Et la Genève internationale, c'était dit une fois à Genève, il y a pas mal de mois, par le nouveau chef du département, que finalement, la politique étrangère suisse, ça n'était peut-être plus la Genève internationale, comme ça l'a toujours été. Ça, c'est inquiétant. Alors maintenant, il y a un rétropédalage aussi. C'est ça, on est dans une phase, même en matière de politique étrangère, où on lance des vélos dans un sens, puis après on fait du rétropédalage, alors on ne sait plus très bien où on va, mais ça crée une sorte d'instabilité, une sorte... je pense que pour les pays, c'est devenu de plus en plus difficile de lire, au fond, la Suisse, de lire ce qu'elle va faire et de comprendre. On aurait intérêt à revenir à plus de cohérence, c'est certain.
Et pour la cohérence, en fait, finalement, il y a les élections fédérales dans quelques mois, en octobre, fin octobre. Est-ce que là, ce ne serait pas un moment opportun pour le peuple de redresser finalement un peu, enfin de remettre le cap sur une politique étrangère un peu plus, disons, traditionnelle de la Suisse, en redéfinissant, en redistribuant les cartes au niveau du Parlement ? Est-ce que, quelque part, est-ce que vous seriez favorable à voir Inésio Cassis quitter le ministère des Affaires étrangères en faveur de quelqu'un d'autre qui serait un peu plus apte à mener la politique de la Suisse, politique étrangère qu'elle a toujours menée ?
Alors, évidemment, c'est pas dans mon pouvoir. D'abord, les Suisses, je peux dire ce que je souhaite. Les Suisses vont voter ce qu'ils veulent. Mais je pense que la politique étrangère que nous avons en ce moment, c'est vrai, c'est un peu le résultat de ce qu'on a appelé un virage à droite du Parlement lors des dernières élections. Alors, dans ce domaine-là, je pense que cette politique étrangère reflète peut-être ce que les Suisses en tout cas, on peut leur prêter d'avoir voulu. Mais à mon avis, non. C'est pour ça qu'il y a des correctifs qui se font à tout moment. Alors peut-être que cet automne, il y aura un nouveau Parlement. Peut-être qu'on prévoit que certaines forces vont profiter. Mais bon, je pense que les tremblements de terre politiques en Suisse sont très minimes. Il suffirait de quelques pourcents pour effectivement que ce soit comparé à un tremblement de terre. Maintenant, je pense que... Vous savez, je pense que le Conseil fédéral, d'abord, comme vous savez, est responsable et a tout pouvoir de répartir les postes entre eux, les conseillers fédéraux. Maintenant, peut-être que Monsieur Cassis lui-même souhaiterait aller ailleurs. Je pense qu'il a jamais caché que les affaires étrangères n'étaient pas son poste de rêve. Il a des qualités qui devraient pouvoir l'amener dans d'autres ministères. Alors peut-être qu'effectivement, cet automne, quelqu'un d'autre vienne aux affaires étrangères. Mais vous savez, je pense que, comme vous savez, la politique étrangère, c'est l'affaire du Conseil fédéral. Alors moi, j'appelle de mes voeux un Conseil fédéral qui mette plus la main sur la politique étrangère de la Suisse. Évidemment, un chef de département est responsable de soumettre au Conseil fédéral des positions, des papiers de position, mais en matière de politique étrangère, pour le reste aussi, mais surtout en politique étrangère, la Constitution donne au Conseil fédéral la dernière compétence pour représenter la Suisse à l'étranger. Alors que le Conseil fédéral fasse son travail. Et je pense que les choses devraient mieux aller.
Oui, donc finalement, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas Ignacio Cassis qui crispe toutes les attentions sur de la politique étrangère, mais c'est l'ensemble du Conseil fédéral, ou du moins en tout cas une majorité. Cette majorité, elle a été récemment un peu bouleversée, enfin, quoique renforcée plutôt, avec l'élection notamment de la libérale radicale Karine Keller-Sutter, dont on sait que les positions sur la politique étrangère, mais aussi sur des questions un peu plus économiques, sociales, sont très tranchées aussi. Quelque part, elle ressemble beaucoup sur son profil à Ignacio Cassis. Est-ce que là, on peut craindre aussi un durcissement de cette aile de droite avec l'UDC qui propose une politique étrangère très, très dure et très comme aujourd'hui, en fait?
Oui, bien, on a vu les résultats, c'est vrai. On est dans une phase qui est celle-ci. Il y a eu incontestablement, vous savez, une démocratie, au fond, évolue en fonction de ce que le souverain souhaite. Et le peuple suisse a incontestablement voté pour une représentation politique qui est plus à droite, qui est plus... je dirais qu'il va plus dans le sens d'une certaine fermeture, je dirais pas d'un égoïsme, mais enfin quand même c'est de l'égoïsme, je pense, un repli de la Suisse sur soi. Et je pense que comme pays riche, pays très très riche, nous ne pouvons pas, même dans nos propres intérêts, nous ne pouvons pas nous permettre de nous refermer sur nous-mêmes. On doit rester ouvert et solidaire. Mais c'est vrai, vous avez incontestablement raison. Il y a au Conseil fédéral aujourd'hui, alors on dit qu'il est plus unique qu'avant, je ne sais pas. Je sais qu'à l'époque de M. Burkhalter, on le présentait lui comme le point de balance. Et très souvent, c'est vrai, il a joué ce rôle. Je pense que en matière de politique étrangère en Suisse, la seule place pour vraiment faire dans l'intérêt du pays, c'est d'être au point d'équilibre au centre, entre la gauche, la droite, et que si vous voulez faire une politique étrangère qui soit trop à gauche ou trop à droite, on aura immédiatement des problèmes.
Ça, c'était sur les aspects de la politique étrangère actuelle. On va passer un petit peu à une partie un peu plus, on va dire, nostalgique pour vous, en tout cas. On va parler un peu de vos années au Conseil fédéral, enfin, au sein du département des affaires étrangères. Vous avez justement été très proche de Didier Burkhalter pendant plusieurs années. Didier Burkhalter, on l'a aussi beaucoup décrit après sa démission comme une souris grise, quelqu'un dont on peinait à sentir un peu la motivation. On le trouvait un peu terne, un peu manquant de courage. Est-ce que ça, c'est une description qui vous paraît exacte pour la personne que vous avez fréquentée, vous, de près?
Ben non, complètement pas. Je veux dire, son année de présidence à l'Organisation de sécurité européenne a montré justement l'inverse. C'est quelqu'un qui a... Mais M. Burkhalter avait, au fond, c'était un homme politique un peu atypique aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'a... alors peut-être qu'il accordait quand même de l'importance à la communication, je veux dire, mais ce n'était pas l'élément central. Et puis, de par sa nature, de par son caractère, ce n'est pas quelqu'un qui se projetait en avant, ce n'est pas quelqu'un qui était extrêmement extraverti, qui sautait sur les tables, qui buvait des verres avec les électeurs, ce n'était pas lui. Il était tout l'inverse. Mais je pense que D'ailleurs, tous les Suisses, c'est assez caractéristique, tous les Suisses se sont sentis extrêmement honorés de le voir dans sa fonction de président de l'Organisation de sécurité européenne. Je crois que quand il s'est occupé de la crise ukrainienne, il a joué ça de manière extrêmement compétente. Et souris grise, vous savez, si... alors, il n'est certainement pas quelqu'un qui a des paillettes et qui est très bling-bling, c'est pas son genre. Alors, si l'inverse de ça, c'est souris grise, je pense qu'on peut le dire. Mais ceci dit, ça n'était pas du tout une souris grise. C'était quelqu'un qui était extrêmement passionné par les dossiers de politique étrangère. C'est quelqu'un qui a, je pense, énormément aimé son métier. Et peut-être c'est une des raisons aussi de son départ, d'ailleurs, parce que c'est très compliqué lorsque vous voulez prendre la mesure, lorsque vous voulez mettre la main sur les choses, les prendre de l'influence. Et par rapport à la crise ukrainienne, il a beaucoup souffert de voir que finalement... il a quitté pratiquement ses fonctions à cette présidence-là en laissant la crise en l'état. Il a pas pu accompagner la crise un petit peu vers un semblant de solution. L'Ukraine ne s'est jamais réformée. D'ailleurs, on voit aujourd'hui l'Ukraine, c'est pas mieux qu'avant, politiquement, etc. Donc je crois qu'il a beaucoup souffert. Mais il a toujours aussi insisté, et il insiste encore maintenant quand il donne certaines interviews, que dans ce domaine-là de politique étrangère, on ne peut faire que des tout petits pas. Et que lui, il est très content et très heureux s'il a apporté sa contribution au moment où il était aux affaires. Et je crois qu'il l'a très bien fait.
Mais Didier de Burkhalter, c'est aussi une énigme, quelque part, parce que quand il a annoncé sa démission au Parlement, il a quand même dit ces mots qui en ont surpris beaucoup. Quelque part, je me suis réveillé un matin, c'est plus ou moins ce qu'il disait, et j'ai su que c'était le moment de partir. Et on l'a senti quand même très, finalement, lassé du Conseil fédéral. On a senti quelque part qu'il était plus soutenu, peut-être, par une majorité pour sa politique européenne, notamment. Et finalement, il est parti comme ça. Vous, qu'il avait fréquenté presque jusqu'au dernier moment, vous sentiez qu'il allait partir ou c'est quelque chose qui est vraiment passé du jour au lendemain ?
Alors moi pas, moi je l'ai quitté définitivement quelques semaines après l'annonce de sa démission. Et s'il y a une chose vraiment qui m'a surpris, là je suis tombé par terre comme on dit, hein, c'est lorsque j'ai appris qu'il démissionnait. Et je pense que son entourage proche qui était toujours autour de lui a été tout autant surpris. Je pense que quelques jours auparavant, avant le fameux week-end, personne se doutait qu'il allait démissionner. Effectivement, je pense que M. Burkhalter attache énormément d'importance aux rapports humains. C'est quelqu'un de très sincère, de très impliqué. Et il y a parfois des choses qui on s'en rendait bien compte, qui le faisaient souffrir. Il n'en montrait rien, mais qui le faisaient souffrir. C'est pas quelqu'un de... Alors, peut-être que pour ce type de personnalité, c'est beaucoup plus compliqué de faire de la politique. Parce que la politique, c'est il faut être des tueurs, c'est très compliqué, c'est dur, c'est cruel. Et sans doute qu'il y a des personnalités dont précisément l'ADN est peut-être moins compatible avec ce type d'activité. Et je pense que M. Burkhalter... Alors, ceci dit, je n'ai pas de réponse non plus, c'est lui qui sait, hein, mais visiblement, je pense qu'il y a eu un moment donné où le vase a débordé et il s'est dit à quoi bon, je ne peux plus apporter, etc. Et voilà, il a décidé. C'est aussi un grand exemple de cohérence avec lui-même. Ça n'est pas quelqu'un qui va s'accrocher, alors même qu'il voit que ça réussit plus, que même lui-même est malheureux. Non, je pense qu'il tire, il a réussi, il est parvenu à tirer les bonnes conclusions et il a, pour lui, dans son intérêt propre. Et vous avez raison, son départ est très énigmatique. On dit toujours qu'un conseiller fédéral doit réussir son départ. Alors il y a certains qui réussissent à créer la surprise, d'autres moins. Mais là, c'était gigantesque, c'était vraiment une bonne surprise. Et si on mesure les conseillers fédéraux à la chorégraphie de leur départ, alors je pense qu'ils méritent toutes les récompenses.
Didier Burkhalter a aussi beaucoup donné d'interviews depuis qu'il n'est plus au Conseil fédéral, notamment et particulièrement sur ses livres qu'il écrit depuis qu'il n'est plus au Conseil fédéral. Il dit quelque chose qui revient souvent. Il dit « mais finalement, il faut arrêter de mettre des étiquettes sur tout parce qu'on a tendance à tout simplifier ». Et aujourd'hui, finalement, c'est un peu l'impression qu'on a au Conseil fédéral aussi, c'est qu'on simplifie les choses, on simplifie les dossiers, Mais est-ce que vraiment Didier Burkhalter devait partir? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un Didier Burkhalter aujourd'hui au Conseil fédéral pour pouvoir remettre un peu de sens, un peu de durée aussi sur les objets? Parce que lui, il a cette tendance à dire non, mais attendez, on ne va pas se précipiter, on a besoin de temps, les choses ne se font pas en un jour. Et aujourd'hui, on a le sentiment vraiment qu'on nous propose une politique de tous les instants qui peut répondre à toutes les questions au même moment. Ça, est-ce que ça manque pas aujourd'hui avec son départ ?
Tout à fait, je pense, vous avez vraiment raison. On a reproché, pour revenir à la politique européenne, à Didier Burkhalter de ne pas avancer, etc. Ça n'allait pas assez vite, ça ne délivrait pas, etc. Mais c'était justement sa force. Lui n'a jamais... il a toujours réussi à avoir le Conseil fédéral derrière lui. Chaque petit pas qu'il a effectué, ben, il y avait l'ensemble du collège qui l'approuvait. Maintenant, on a un texte. Mais le collège ne s'est pas prononcé sur ce texte, et donc à quoi bon? Je veux dire, non, je pense que vous avez entièrement raison. Monsieur Burkhalter, c'est quelqu'un qui accordait, il faisait toujours des comparaisons, vous le savez, avec les équipes de football. Il était lui-même une fois footballeur, etc. Donc il a toujours privilégié l'équipe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsqu'il a été nommé, président de la Confédération, il parlait de nous. Il a dit d'une manière extrêmement curieuse, je ne sais pas si c'était à lapsus, voulu, etc. Nous avons été élus président de la Confédération. Donc même là, alors que c'est une fonction très personnelle, il parlait du Conseil fédéral. Ça, c'est Didier Burkhalter. Alors, il me racontait, et c'est, votre question me rappelle ce qu'il m'a dit à l'époque, que lui, pour lui, lorsqu'il propose quelque chose au Conseil fédéral, il veut pas forcer la décision. Il veut que la décision se mûrisse et puis que finalement elle aboutisse dans une décision, une vraie décision collective. Et sinon, il retire et il revient. Alors, ça prend plus de temps. Mais ça a l'avantage d'avoir, au fond, tout le collège derrière un projet. Et il rappelait ses expériences, je crois que c'était à la municipalité de Neuchâtel, où c'était exactement la même tactique qu'il utilisait. Il retirait les projets qu'il ne sentait pas mûrs. Et finalement, à la fin, il n'y avait même pas de vote. Tout le monde se ralliait à un projet amendé, etc., etc. Et je pense que la politique aujourd'hui, vous avez raison, ne fonctionne plus comme ça. On se rend bien compte que les choses sont devenues dures, qu'au fond, on passe d'une chose à l'autre, il y a de moins en moins de cohérence, que finalement, les rapports aussi, je pense, entre les personnes, même si on nous prétend le contraire, doivent être assez compliqués. C'est dur, hein, Conseil fédéral. Les pères fondateurs ont forcé ce collège à projeter vers l'extérieur, au fond, un amour réciproque et mutuel. Mais ce n'est pas vraiment le cas très souvent.
Georges Martin, nous arrivons gentiment au terme de cette émission. Il reste quelques minutes. Je vais vous poser une question un peu taquine parce que vous avez aussi déclaré dans le matin dimanche de mars que parfois respecter les règles, c'était aussi ne pas suivre les directives. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez prononcé. Vous pouvez nous expliquer cette phrase-là qui est un peu surprenante de la part d'un ancien diplomate ?
Oui, peut-être. Mais vous savez, j'ai même, je crois, mentionné Antigone. Alors, c'est de l'outrecuidance de ma part, parce que vraiment, je ne me situe pas à ces hauteurs-là. Non, lorsque je pense qu'il est arrivé à tous les diplomates, en tout cas que je connais, suisses, mais même étrangers aussi, lorsque vous êtes à des milliers de kilomètres de votre pays, on vous donne des instructions, avec il y a toujours des marges de manœuvre, etc. Parfois, il y en a un peu moins. Mais finalement, comme représentant de la Suisse, et je crois que dans cet article, j'avais pris l'exemple de la votation sur les minarets. Alors j'étais dans le plus grand pays, j'étais dans un pays musulman, et effectivement, pour moi, c'était compliqué d'aller leur dire, écoutez, nous avons décidé majoritairement d'interdire la construction des minarets, etc. Je savais qu'il fallait essayer de donner de l'explication, il fallait expliquer le contexte et tout. Alors pour moi, le contexte... Alors peut-être que j'aurais dû simplement communiquer les résultats, et puis voilà, c'est tout. Ou alors j'explique la Suisse, j'explique notre démocratie directe, j'explique que... dans un contexte de démocratie directe, ça ne veut pas dire que nous, le peuple, on ne se trompe jamais, que parfois il peut y avoir des erreurs, etc. etc. Et en définitive, qu'aussi il y aurait eu la possibilité d'interdire. Moi, je suis tout à fait convaincu encore maintenant que cette votation, c'était vraiment limite, 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 parce qu'il manquait les clochers. je ne sais pas ce qu'il y a sur les synagogues. Je veux dire, mais si on avait prévu dans cette votation l'interdiction de toute protubérance au-dessus des bâtiments religieux, c'était OK. Mais c'était quand même les minarets. D'ailleurs, on l'a appelé la votation. Alors voilà, c'est ça que je veux dire. Je veux dire que dans l'intérêt du pays, parfois, il faut ne pas aller contre les instructions, mais les dépasser et se permettre, au fond, de parler un peu plus du contexte, de ne pas s'en tenir à l'extrême froideur de ce que vous avez à signaler. On n'a aucun intérêt à confronter, à rendre les autres antagonistes par rapport à notre pays ou par rapport à notre position. Un diplomate, c'est le visage d'un pays, donc on a tout intérêt à le rendre le plus sympathique possible.
Georges Martin, merci. Je vais vous poser une toute dernière question avant de terminer cette émission. On vous sent très passionné et quand on préparait cette émission, vous m'avez dit peut-être que vous alliez arrêter de suivre d'aussi près la politique, du moins d'écrire dessus. Est-ce que c'est vraiment possible à vous entendre pour vous de lâcher quelque part cette politique qui semble vous habiter, cette passion qui vous a suivi visiblement pendant 37 ans? Est-ce qu'aujourd'hui vous allez pouvoir peut-être tourner la page ou ça va quand même être quelque chose qui va être difficile pour vous?
Non, je ne vais jamais tourner la page. Je reste passionné. Qu'est-ce que je fais le matin en me levant? C'est de regarder ce qui s'est passé dans le monde. Ça, je vais continuer. Mais ce que je vais certainement... Je ne veux pas non plus, et c'est peut-être un petit peu l'image que j'ai dû donner à ceux qui m'ont lu, qui m'ont suivi, etc., dans le blog et au niveau des réseaux sociaux, je ne veux pas non plus donner l'impression que je mène un combat. Si je mène un combat, c'est celui des idées, c'est celui des grands principes de politique étrangère, c'est ça. Alors, je veux peut-être... utiliser un peu la pédale de frein, parce que je ne veux pas donner l'impression qu'il serait absurde et grotesque de me retourner et de faire mon fonds de commerce maintenant, de tirer et de critiquer la maison que dans laquelle je me suis trouvé tellement à l'aise pendant 37 ans. Ce n'est pas le but. Donc voilà, c'est dans ce sens que j'indiquais que j'allais peut-être un petit peu réfréner mes envies.
Georges Martin, merci beaucoup de nous avoir accueillis à Berne. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci à vous et c'était un vrai plaisir. Merci à Philippe.
Et quant à nous, sur Radio Tonique, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je serai normalement en compagnie de Nathalie Fontanelle, la conseillère d'État genevoise en charge des finances, de l'égalité et du personnel de l'État. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et une excellente soirée. À bientôt.